Après-midi sur Radio Campus Tour, sur Radio Louise, à Bruxelles et dans le monde entier sur YouTube. Bienvenue si vous nous rejoignez. Avec moi aujourd'hui en studio, trois doctorants qui travaillent sur la radio. Je reçois Sébastien Schmitt. Bonjour.
Bonjour.
Idé Amani.
Bonjour.
Et Raphaël Dapsol.
Bonjour.
Merci à vous messieurs d'avoir accepté mon invitation pour venir sur notre radio étudiante présenter vos travaux de recherche dans cette émission de médiation culturelle et scientifique. Alors, je donne tout de suite la parole à Sébastien Schmitt qui va nous parler de sa thèse. Attention, le challenge, c'est de présenter sa thèse en 10 minutes.
Oui, mais c'est déjà beaucoup, 10 minutes, d'autant que je ne suis pas encore très... le cadre de ma thèse n'est pas encore tout à fait défini. J'ai postulé l'année dernière au GRER pour en fait remplir la condition de la radio et de la mobilité, puisque à ce moment-là, j'envisageais de travailler sur la question des dispositifs radiophoniques qui s'invitent sur la scène, notamment dans le cadre des fictions radio ou des dramatiques radio. Et entre-temps, j'ai recadré cette thèse autour de la question des écritures sonores dans les récits de fiction. Et donc, peut-être la particularité, c'est que je m'inscris dans une école doctorale de type un peu recherche-création. Donc, je fais ça à l'ULB en arts et sciences de l'art. Et c'est donc une invitation à être dans une pratique à travers la recherche et d'essayer du coup d'ouvrir un laboratoire qui soit un endroit où les choses puissent se tester concrètement. Et donc ce laboratoire, je suis en train de le constituer, je suis en train d'essayer de mettre en place des dispositifs, de pouvoir identifier clairement les paramètres que j'aimerais bien tester dans le cadre notamment des retranscriptions, enfin des réécritures lors du passage de l'écrit à l'écriture sonore. Et donc il y a plein d'enjeux qui sont ceux auxquels je suis confronté depuis une quinzaine d'années, puisque à titre personnel je travaille aussi comme artiste, artisan de la radio, en tant que metteur en ondes, musicien, monteur, réalisateur. J'ai réalisé des fictions radiophoniques et je suis aussi souvent, j'accompagne des jeunes auteurs, autrices qui adaptent des récits dans le cadre de réalisation de fictions. Et je me trouve depuis longtemps confronté à cette impression que la radio, en termes d'écriture sonore, on a l'impression d'à chaque fois réinventer la roue. Alors qu'on fait des dramatiques radio depuis les années 20-30. Et d'ailleurs également la radio se joue sur scène depuis ces années-là aussi. Il y a des choses très précises qui ont été écrites sur les enjeux de raconter des histoires radiophoniques par le son, a priori comme médium principal, tout en étant sur une scène, un petit peu comme on l'est maintenant, puisqu'on est à la fois en ubiquité sur les ondes de Radio Tour, sur des ondes bruxelloises avec un peu de décalage, j'imagine, et en même temps, on est en face d'un public, on est dans un amphithéâtre avec des gens qui nous regardent. Donc il y a des enjeux d'information qui passent sans doute différemment, en fonction qu'on nous voit ou qu'on ne nous voit pas. Donc ma thèse aujourd'hui, elle porte un petit peu plus sur ces questions de comment pouvoir tester des paramètres de transposition à partir du moment où on passe de l'écriture, donc un texte écrit, à de l'écriture sonore. Donc utiliser tout ce qui compose le matériau sonore, et dans ce cadre-là, évidemment, je peux m'inspirer des écrits qui ont été amenés par des auteurs comme Rudolf Arnheim, ou plus récemment même Christophe Deleu, qui parle des strates plastiques ou cinétiques du son, etc. Et d'autre part, je reviens en arrière, excusez-moi, je suis un peu confus, mais le point de départ pour revenir sur la radio et la mobilité, ce qui m'a amené là, c'est que je suis depuis 3 ans en train de diffuser une création radiophonique que nous avons créée avec un collectif dans lequel je suis, avec lequel on fait vraiment de la radio, et on s'est retrouvé sur une scène avec un spectacle qu'on a voulu défendre comme une fiction radiophonique qui se joue sur scène et qui n'est pas qu'on n'a pas voulu appeler du théâtre, ni du théâtre radiophonique. Même si à l'origine aussi, la dramatique radio, c'est un moment, a été diffusée par le théâtrophone. Il y a des liens très intéressants qui se sont toujours tissés dans l'histoire de la radio entre le théâtre et la radio. À partir du moment où la radio arrive sur scène et qu'on a envie de défendre le médium sonore en tant que tel, est-ce que à quel point le visuel vient amoindrir ou péricliter la force et la puissance que le son permet grâce à sa puissance de permettre de développer de l'imaginaire auprès des gens qui reçoivent le son. Donc les enjeux pour peut-être un peu plus raccrocher avec le colloque ici, ce que je trouve intéressant, c'est par rapport au dispositif qu'on peut retrouver lorsque la radio s'improvise sur la scène. On peut voir ça par exemple avec les fictions de France Culture en été qu'ils font notamment au théâtre au Festival d'Avignon. Il y a des anglophones qui le font. Il y a un spectacle qui a très bien fonctionné de The Encounter, qui est un spectacle anglophone qui se fait avec une personne sur scène, avec un dispositif d'une tête binaurale sur la scène. Et donc le spectacle que nous on a modestement créé et qui tourne assez bien et qui a été aussi pour moi le déclenchement de vouloir parler de ça et en fait de réfléchir sur cette création et éventuellement aussi de pouvoir avoir une pratique d'autocritique, d'analyse et de pouvoir partager ensuite les erreurs qu'on a commises et les apprentissages de cette expérience. C'est pour ça que je reviens avec ce travail de parrainage que j'expliquais au début. Quand on accompagne des jeunes auteurs, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas aussi clairement inscrites dans une histoire du faire de la radio comme il y a une histoire de faire le cinéma. Et que je trouve intéressant, moi, que ma recherche puisse être au service d'un manuel presque pratique, qui soit la constitution, et même un manuel sonore, qui soit la constitution de plusieurs essais-erreurs qui auront été testés lors de mon laboratoire, qui commence un peu maintenant et qui va durer, j'imagine, au moins 2 ans. Et voilà.
Sébastien Schmitt, est-ce que vous avez des exemples à nous donner de contenu radiophonique, d'aventure radiophonique où il n'y a aucune part de théâtre, si on considère que le montage sonore, après tout, en soi, c'est aussi une forme de théâtre?
Est-ce que vous faites référence au théâtre en tant que visuel, être sur scène, ou est-ce que c'est la manipulation d'intervenir sur le récit?
Plutôt la manipulation d'intervenir sur le récit.
Oui. Évidemment, dès qu'on touche, la radiomorphose, comme je disais justement dans l'ouvrage qu'on nous a montré ce matin encore, elle intervient dès le moment où on fait une prise de son. On opère des choix de placement, déjà de casting, et déjà on dépend aussi de conditions de production. Où est-ce qu'on place son micro? Quel type de micro on choisit de prendre? Est-ce qu'on fait en mono, en stéréo? Est-ce qu'on tourne les choses en situation réelle? Est-ce qu'on privilégie du studio? Il y a là, dès la prise de son et toutes les étapes qui vont aller ensuite, montage, mixage, bruitage, mise en onde, sound design, habillage sonore, ce sont toutes des choix qu'opèrent les équipes, ou des fois des équipes sont tellement petites que c'est même une seule personne qui porte l'équipe. Et donc, il s'agit là d'une forme d'écriture. Pour autant, je pense qu'on peut parler d'une écriture proprement radiophonique et pas d'une écriture théâtrale pour autant. À partir du moment où la radio arrive sur scène, inévitablement, le glissement de qualifier cette expérience de théâtrale, c'est qu'en fait, on peut se retrouver sur des planches et dans un cadre qui rappelle celui du théâtre, c'est-à-dire une scène avec éventuellement des rideaux. Et dans le cadre de l'expérience que nous on a développée avec Pileta Remix, je pourrais montrer des photos éventuellement pour les gens qui sont là, et même si les gens qui nous écoutent ne les verront pas, c'est qu'on a essayé à tout instant de revendiquer la force du médium sonore et d'éviter d'amener trop d'aspects visuels qui auraient pu compromettre la force de l'imaginaire que permettait le son. Et donc, par exemple, les paramètres sur lesquels je trouve intéressant de travailler lorsqu'on parle de la radio sur la scène, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme éclairage, qu'est-ce qu'on utilise comme costume, qu'est-ce qu'on utilise déjà comme nom, est-ce qu'on fait du théâtre radiophonique, est-ce qu'on fait de la performance sonore, est-ce qu'on fait du live radiophonique, est-ce qu'on fait de la fiction sonore sur scène. Il y a cette idée intéressante aussi, comment est-ce qu'on montre la provenance des sons qui sont créés sur la scène au service du récit. Il y a un aspect qui peut être spectaculaire, de se dire, tiens, il y a un son qui apparaît, d'où vient-il? J'invite le spectateur à chercher la source du son. Parce qu'évidemment, l'idée d'une fiction radio, c'est qu'on produit les sons sur le moment même. Il y a un aspect performatif. L'idée n'est pas d'envoyer une bande sonore et de faire jouer des acteurs dessus. Donc il y a des niveaux de complexité au niveau des interprétations et d'une partition aussi. Il y a une véritable partition qui peut s'inscrire et qui doit répondre à la complexité des besoins de la narration, c'est-à-dire bruitage, musique, entrée des musiques, sortie, nuances. En fait, on se rapproche évidemment là du langage musical à proprement proprement parler. Avec cette différence qu'il y a dans le monde radiophonique, quelque chose d'important, c'est la façon dont les dialogues vont être joués, donc il y a une dimension de jeu d'acteur, et aussi de placement. La grammaire radiophonique repose aussi beaucoup sur le placement des voix par rapport au micro. Donc on entend dans les radios de flux, on est souvent avec cette question, on ne se pose pas, on pose sa voix proche du micro pour avoir une voix de premier plan. À partir du moment où on est dans des écritures un peu plus nuancées, on va pouvoir jouer sur les espaces, sur des choix, et ces espaces doivent être pris en compte, je pense, dans la partition.
Merci pour cette présentation, Sébastien Schmitt. Je me tourne vers Idée Amani et Raphaël Dapsol, nos deux autres doctorants. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce qu'il vient de dire ?
Moi, j'ai effectivement une question par rapport... Pas une seule question, mais sur ce qu'il vient de dire. Hein. Je voulais rebondir là-dessus pour lui poser une question. C'est le théâtre radiophonique. En fait, le théâtre radiophonique, je voudrais vous demander, en fait, si vous travaillez sur quel genre d'acteurs et aussi le public qui est visé. Par exemple, en Afrique, quand on parle du théâtre radiophonique, ce que moi j'ai compris hein, dans votre explication, je pense que c'est autre chose. Il y a quand même des similitudes, hein, mais il y a aussi des différences, vraiment. Donc, du théâtre radiophonique tel que moi, je le connais en Afrique. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, en fait, les acteurs de ce théâtre radiophonique et aussi les dispositifs techniques pour la mise en scène?
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment revenir sur une histoire du théâtre radiophonique belge ou française. En tout cas, je pense que déjà dans les tournages de fiction, dans les studios, dans les gros studios comme en Belgique à la RTBF, aujourd'hui, il y a quasiment plus de production propre de la part des services publics en fiction radio, quasiment, je dis bien. Mais la preuve en est, c'est que les studios qui servaient auparavant à faire des tournages de fiction radio, comme il y en a encore aujourd'hui à Radio France, ont tous disparu. Et donc, en fait, ces fictions radio étaient jouées, destinées à être entendues à la radio, mais pour que les acteurs et les actrices puissent être dans une dynamique performative satisfaisante, on faisait venir des publics qui venaient assister au tournage, un peu comme on l'a dans les sitcoms, on voit les séries, on a des gens qui viennent voir les tournages pour que les acteurs se sentent un petit peu valorisés ou qu'ils soient dans un enjeu aussi de performance. Après, quand on dit théâtre radiophonique, pour moi, le principal, c'est qu'il y a l'intervention du micro. Et que je trouve que sur la question de la sonorisation des théâtres, Daniel Day a écrit plein de choses très intéressantes que je vais pas du tout, je me lance pas là-dedans, mais je pense que bien souvent le théâtre sonorisé, il s'agit de mettre des micros HF sur les voix des acteurs pour qu'on puisse les percevoir dans le fond de la salle de la même manière qu'au premier plan devant la salle, et qu'il y a du coup un enjeu de... On perd le rapport de la projection de la voix. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de crier pour parler au fond, etc. Mais la question de la proximité des plans ne se pose pas, vu que c'est un micro à la micro Madonna, comme on dit un peu en Belgique. C'est-à-dire que c'est un micro qui ne bouge pas, la distance entre le micro et la source ne bouge pas. Ce qui permet finalement assez peu de nuances et d'être dans un rapport qui est très plaqué. Et donc je pense que le théâtre radiophonique, il commence par prendre en considération cette possibilité de pouvoir bouger, se déplacer autour du micro. Et que c'est un élément fondamental qui entre en jeu dans ce qu'on pourrait appeler vraiment un médium pour rencontrer son spectateur. Aussi, dans Pileta, on choisit de faire porter des casques au public. Donc on a investi dans 250 casques parce qu'on estime que c'est la meilleure façon de pouvoir adresser cette qualité d'écoute au public. Donc ça fait partie du dispositif dont j'ai pas eu le temps de parler.
Eh bien, merci Sébastien Schmitt. Malheureusement, on est contraint par le temps. On ne peut pas expliquer tout ce qu'on aimerait expliquer. Je passe la parole à Idée Amani, notre doctorant en sciences du langage, Université de Bourgogne-Franche-Comté. Puisque vous avez posé une question, tant pis. C'est à votre tour de nous présenter votre thèse en 10 minutes.
Alors, en 10 minutes, je vais essayer. Donc, 10 minutes, je pense que c'est beaucoup, comme lui aussi, il vient de le dire, donc Sébastien, il l'avait dit. Alors, en gros, je vais vous expliquer, en fait, voilà, aux auditeurs, bien sûr, de Radio Campus Tours, hein, donc, et le public qui est là, qui nous suit. Et ma thèse, en fait, c'est tout un parcours, parce que ma thèse, je rappelle déjà qu'elle porte sur la radio en Afrique, hein, sur les discours et les contextes de diffusion. Et depuis la licence, en fait, j'ai travaillé sur la radio, donc en Master 1 et en Master 2 aussi. Et donc, au fur et à mesure, hein, donc ça, les travails se précisent et je vois bien aussi un peu, je comprends petit à petit, en fait, les enjeux, hein, de la radio, plus particulièrement au Niger. C'est pour cela que, en fait, après le Master 2, je me suis engagé à rédiger effectivement cette thèse, donc qui porte sur le contexte et les discours, hein, de la radiodiffusion, notamment de la radio d'État, qu'on appelle la radio publique aujourd'hui au Niger. Alors, pour une petite histoire, hein, la radio publique du Niger a été créée en 1958 et elle change de nom à partir de 1974, après un coup d'État militaire. Donc, les coups d'État militaires, en fait, depuis 1974 et jusqu'en 2011, hein, il y en a tout le temps au Niger. Donc, les derniers coups d'État, c'était en 2010. Et moi, je me suis dit, alors, à chaque fois, la radio publique, en fait, à chaque coup d'État, la radio publique a joué un rôle très important. Et je me suis dit, alors, pourquoi ne pas essayer d'analyser ces discours, hein, ces discours radiophoniques en termes, effectivement, politiques, mais aussi, on va dire, sociopolitiques. Parce qu'il y a les discours sociaux, hein, qui traversent les discours de cette radio. Et aussi l'orientation que les journalistes donnent effectivement à l'information radiophonique. Donc c'est là qu'est né en fait mon projet de thèse. Alors à partir de là, donc il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il faut faire des enquêtes de terrain et il faut obtenir aussi des données qu'il faut analyser par la suite. Donc là en fait il me fallait effectivement des choses concrètes, hein, donc pour faire ce travail, ce qui m'a effectivement orienté vers des disciplines, hein, pour pouvoir réaliser ce travail en sciences du langage d'abord, hein, pour l'analyse du discours, et aussi en sciences de l'information et de la communication, en ce qui concerne les dispositifs, hein, qui utilisent la radio, notamment avec les développements et l'avènement des technologies numériques, de l'information et de la communication. Donc, j'ai récolté en fait des données sonores, donc un peu plus de 3000 émissions radiophoniques. Donc, que j'ai transcrit une partie, j'ai transcrit 500 pages. Donc, et parmi ces transcriptions, donc, j'ai sélectionné 7 émissions, 7 principales émissions à analyser. Donc, dans ces émissions, il y a des journaux radiophoniques de la mi-journée et du soir. Donc, et aussi des émissions thématiques, hein, des sociétés, notamment des émissions qui font la promotion de la femme, et aussi des émissions interactives dans lesquelles les citoyens appellent donc pour interagir. Et alors, pour la deuxième partie, ça concerne des enquêtes auprès des auditeurs et aussi auprès des professionnels de radio. J'ai fait en fait mon enquête auprès de 370 auditeurs, donc qui ont répondu à cette enquête auprès des publics, et 36 journalistes. Donc, qui ont participé. Et les données de l'enquête, les résultats, en fait, j'ai fait les dépouillements avec un logiciel, hein, qui s'appelle Sphinx. Donc, sa dernière version, Sphinx IQ2, qui est très performant, donc qui m'a aidé effectivement au dépouillement de l'enquête. Alors, ma thèse aujourd'hui, elle est vers, je suis vers la fin, hein, on va dire, de la rédaction, parce que, voilà, j'ai déjà fait les analyses, toutes les analyses. Donc, j'ai des résultats concrets. Hein, donc, si Mélissa, vous avez des questions à me poser là-dessus, ou bien mes camarades doctorants, donc je vais vous apporter plus de précisions sur ce que en fait cette enquête et aussi l'analyse des données sonores m'ont en tout cas donné.
Eh bien, merci Idéamani. Alors justement, je me tourne vers nos deux invités. Est-ce que vous avez quelque chose, une question à poser à Idéamani?
Moi, peut-être sur le tu as porté ton choix sur cette émission. Cette émission était diffusée dans quelle région du Niger et comment tu as choisi cette émission-là en particulier?
Alors, c'est bien fait de poser cette question parce que compte tenu du temps qui m'a été accordé aussi, je n'ai pas voulu faire des détails. Au début du projet, j'ai voulu faire un recensement de toutes les radios au Niger et notamment sur la capitale particulièrement, donc les radios privées, communautaires et les radios d'État. Donc au départ un projet de constituer des données de 25 ans de production radiophonique, de 1990 à 2015. Donc en 90, vous n'êtes pas sans le savoir, hein, c'est l'avènement de la démocratie en Afrique, comme on le dit. C'est à partir de là qu'est né effectivement les journaux privés et les radios privées et communautaires au Niger. J'ai supposé qu'à partir de cette date, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Donc, dans les milieux médiatiques, parce que la radio d'État a aussi changé ses programmes. Hein. Donc, ce n'était plus comme avant, parce que sinon, il allait perdre effectivement le public. Donc, compte tenu des... Mais j'ai eu des difficultés parce que les documents sonores que je voulais recueillir hein, de 90 à 2015, en fait, à partir de 90, il n'y avait pas encore la numérisation au Niger. Donc, je n'ai pas trouvé, en fait, des documents sonores, y compris au niveau de la radio d'État. Donc, ça, c'était la première difficulté. Ils ont commencé effectivement à numériser, bon, dans le sens où ils enregistrent effectivement sur des disques durs et aussi sur des CD, c'est dans les années 2000, hein, plus précisément à partir de 2005 où le Niger a organisé le jeu de la francophonie. Le 5e jeu de la francophonie, c'est à cette occasion que la radio a été équipée des consoles numériques permettant d'enregistrer. Donc, ce qui a fait défaut sur ce côté, et aussi au niveau des radios privées et communautaires, c'est la même chose.
Eh bien, merci. Je pense qu'on peut faire un voyage spatial. À présent, on va se déplacer sur notre planète et on va se tourner vers la région Grand Est. Et oui, merci pour cette transition. On va donner la parole à Raphaël Dapsol, puisque Raphaël Dapsol, vous êtes doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Strasbourg. Et votre travail porte sur les radios locales associatives de la région Grand Est.
Oui, donc voilà, donc on va voyager chez nous. Merci. Donc oui, donc comme tu disais, ma thèse porte plus précisément sur l'organisation des radios associatives de la région Grand Est dans leur processus en fait, de production et de réalisation de contenu. Plus spécifiquement, en fait, c'est comment elles réalisent leur contenu, comment elles réalisent les actions qu'elles font au quotidien, comment elles fonctionnent, qui sont les acteurs qui les font fonctionner, les salariés, les bénévoles, et comment elles justifient leur action. Notamment des actions qui sont rémunérées par le principal fonds qui les soutient, c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique du ministère de la Culture. Donc c'est comment ces radios en fait justifient ces actions auprès du ministère de la Culture, qui en retour les finance dans une certaine mesure. Donc quels sont les critères et comment ces radios s'organisent autour de ces critères pour y répondre ou non. c'est aussi une possibilité. Donc ma thèse porte surtout sur, en fait, sur un regard présent des radios satis, parce qu'on a aussi beaucoup parlé des radios libres, des radios pirates, des radios des années 80 et 90, donc on a encore cette idée des radios associatives comme des lieux de parole, des lieux de liberté de l'époque, alors que les temps ont changé, elles ont beaucoup plus de 30 ans même pour la plupart, elles vont vers leurs 40 ans. Et ces radios ont changé, les acteurs ont changé, ils se sont renouvelés, les pratiques ont changé, le secteur lui-même, parce que c'est un secteur associatif, donc on pense d'abord les radios associatives comme des radios, alors qu'en fait ce sont des associations, donc elles fonctionnent sur un régime associatif, donc avec les côtés bénéfiques qui vont avec, la certaine liberté, mais aussi les côtés négatifs, donc les défauts de financement, les défauts de bénévolat, et tous les problèmes, notamment de financement des actions qui vont avec. Donc ma thèse porte surtout là-dessus. En fait, c'est aller questionner les acteurs sur leurs problèmes, leurs solutions qu'ils apportent, comment ils imaginent leur avenir, quels sont l'état des radios satis aujourd'hui et comment elles abordent la fin des années 2010 et vont vers les années 2020, voire plus loin, si possible. C'est vrai que c'est assez difficile de poser un regard assez complet sur ces radios. C'est pour ça que j'ai pris la région Grand Est, parce que ça, rien qu'en Grand Est, il y a 56 radios, ce qui fait déjà... Ça semble peu pour certains, mais en fait, c'est déjà beaucoup pour les étudier, parce que chaque radio est presque unique en soi. Donc, on prenne rien qu'à Tours, avec Radio Campus Tours, je pense que les autres radios associatives sont totalement différentes, ont une programmation différente, ont des fonctionnements différents. Donc, chaque radio a sa propre spécificité qu'il faut savoir étudier, qu'il faut savoir approcher. Et c'est la difficulté de travailler sur des terrains comme ça, c'est que chaque radio, chaque région a sa propre spécificité, a ses propres radios. C'est une des parties que j'aborde dans ma thèse, justement, c'est pour voir en fait leur lien avec le local, donc comment elles traitent leur implantation dans un territoire, comment elles parlent de leur identité locale, de leur culture locale, comment elles le représentent, et comment elles les représentent à leur public. Et comment elles le représentent en fait dans les dossiers à rendre officieux, donc d'une manière assez administrative, on va dire, donc traduire des choses assez pratiques, faire une émission pour d'une radio sative, l'expliquer dans un dossier administratif et la faire en termes de financement. Voilà.
Alors moi j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que pour rester une radio de libre expression, est-ce que pour rester une radio en lutte entre guillemets, est-ce qu'il faut rester une radio amateur? Et le FSER, pensez-vous que ça peut induire une course aux subventions et donc impliquer qu'une radio transforme son fonctionnement, ses contenus qu'elle produit, pour complaire aux financeurs?
Alors non et oui. Plus développé. Non, les radios, en fait, c'est le grand problème des radios associatives et de l'associatif en général, c'est poser la limite entre amateur et professionnel. Dans le cas d'une entreprise, bon, c'est assez clair, mais dans le cas de l'associatif, c'est beaucoup moins net. Est-ce qu'un salarié sera plus professionnel, plus professionnalisé qu'un amateur, qu'un bénévole? Est-ce qu'un bénévole peut avoir une carrière de 40 ans dans le milieu médiatique, alors que le salarié est un jeune en service civique ou alors qui vient d'entrer pour la première fois dans la radio? Donc évidemment, le bénévole aura beaucoup plus d'expérience, sera beaucoup plus professionnel que le salarié. C'est des cas qui peuvent se rencontrer, c'est des cas qui... c'est pour ça, c'est qu'en fait la limite bénévole amateur et professionnel salarié, c'est toujours très difficile à délimiter. Et tu es salarié, donc tu sais ce que c'est dans les radios associatives. Il n'y a pas besoin d'être salarié pour être soumis à la radio. Il n'y a pas besoin d'être amateur pour faire des discours libres. On peut être salarié et avoir sa liberté. C'est aussi le principe des radios associatives, même s'il y a très peu de salariés. Enfin, très peu, il y en a un certain nombre, mais beaucoup moins que dans les radios commerciales. Mais on peut être une radio qui a des salariés, qui fonctionne et qui reste une radio de lutte. La deuxième question, j'ai un peu oublié, c'est... Ah oui, est-ce que ça fait une course aux subventions? Le FSER en lui-même, c'est... Bon, pour les personnes qui remplissent les dossiers FSER, c'est le son. Oui, c'est assez une course aux subventions, selon, parce que les radios, comme la plupart des associations, ont une baisse de subventions depuis plusieurs années, notamment depuis 2008. Les fonds s'amenuisent. Le nombre des radios associatives augmente de manière lente, on va dire. Avec la DAB+, elle pourrait augmenter, mais les fonds restent les mêmes. Les fonds ne sont pas extensibles. L'État soutient les radios associatives. Il y a des politiques publiques qui vont dans ce sens, mais jusqu'à un certain point, parce que ça soutient aussi d'autres choses. Il y a d'autres projets de politique publique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les radios associatives essayent aussi de se tourner vers des financements privés, ce qui est très difficile. Et c'est là que s'engage la course aux subventions et notamment la course aux salariats pour trouver des personnes qui vont administrer les radios associatives, donc qui sortent de l'activité de radio, pour aller vers ces financements. Donc c'est des personnes qui rentrent dans les radios associatives mais qui ne font pas de radio, qui vont administrer une radio associative comme si c'était une entreprise ou une association, un club de foot, pour trouver des financements. Donc ça peut toujours surprendre ces personnes qui sont dans une radio associative mais qui ne font pas de radio. Elles administrent, elles créent des dossiers, elles remplissent des dossiers de financement. Donc c'est là que justement rentre la course au financement. Ouais.
Sébastien Schmitt, je vous vois hocher de la tête. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ?
Je dodeline, je digère. moi je me demandais si... S'il y avait puisque tu travailles sur une cinquantaine de radios, c'est ça que tu dis ?
Oui, plus de 50.
Est-ce qu'il y a un sentiment de fédération ? Est-ce qu'il y a une forme de mutualisation, un regroupement qui s'opère entre ce réseau, enfin, parmi ces radios, comme un réseau Grand Est, ou pas du tout ? Est-ce que ça pourrait les rendre plus forts ou pas ?
Alors c'est un peu le village d'Astérix, c'est-à-dire qu'il y a des côtés où il y a une certaine fédération, donc il y a des fédérations locales qui fonctionnent, mais il y a aussi des côtés où elles sont en désaccord, donc il y a des ententes, des mésententes, et comme dans tout le secteur, les secteurs associatifs, il y a toujours des mésententes pour des petites choses. Et donc oui, il y a les radios se rejoignent sur certaines choses, mais aussi elles sont en total désaccord sur d'autres, donc c'est difficile de trouver des fédérations assez larges. Ce qui fédère le plus les radios associatives, donc c'est par exemple le plus grand réseau de radios associatives, c'est RCF, donc qui fédère plus de la moitié des fréquences en Grand Est, et en Rhône-Alpes aussi, et dans d'autres régions. Mais c'est une fédération qui, elle aussi, a ses limites. Mais la plupart des autres fédérations de radios associatives sont assez limitées, et au final, surtout dans la région Grand Est, ont ses spécificités et ses propres conflits internes.
Voilà, donc la concurrence qui peut se mettre en place.
Au niveau
elles augmentent et le budget pas. Donc.
C'est là-dessus que justement porte la plupart des conflits, c'est sur les conflits de subventions. Donc parce que les régions, notamment avec les nouvelles grandes régions, font des subventions et suivant la répartition des radios, donc Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Les nombres des radios ne sont pas les mêmes, sachant qu'on est le long de la frontière, donc il y a moins de radios proche des frontières. Donc, par exemple, la Champagne-Ardenne a beaucoup plus de radios qu'en Alsace ou dans les Vosges, ce qui provoque des tensions, notamment à répartition des subventions générales.
Ida Amani, vous avez une question ?
Oui, j'ai une question. Merci pour votre présentation. Et comment vous voyez l'avenir des radios associatives en France en termes de financement ?
Comment je le vois ? Ce qui m'a rassuré, c'est quand j'ai parlé à l'administratrice du FSER, qui est une personne formidable et que je remercie de m'avoir accueilli, elle m'a justement soutenu que l'État soutenait les radios associatives, avait des projets de politique publique pour l'avenir des radios associatives, même si c'est difficile parce que évidemment le budget ne sont pas extensibles et l'État essaye de financer à la mesure de ce qu'il peut certains projets. Il y a beaucoup de discours qui vont dans une façon négative, comme quoi l'État voudrait tuer les radios associatives. De ce que je sais, de ce qu'on m'a annoncé, de ce que j'ai pu lire, c'est que l'État justement soutient encore les radios associatives, notamment comme la presse, aux côtés de la presse. Mais après, il y a des grosses difficultés qui se posent, notamment par rapport à Internet, par rapport à la DAB+, par rapport aux nouvelles technologies. L'AFM, on annonce la fin de l'AFM depuis les années 95. L'AFM existe toujours. Le DAB+, est-ce que le DAB+ arrivera à se développer ? Est-ce que la 4G, qui va être supplantée par la 5G, va résoudre le problème et mettre la DAB+ au placard définitivement ? Et là-dedans, c'est des problèmes d'argent. C'est que les radios associatives, souvent, n'ont pas les moyens de financer là-dedans. Donc, elles sont un peu à la traîne et subissent un peu les révolutions, un peu en retard, et font plus s'adapter dans des méthodes de braconnage, on va dire, de chercher des solutions au moindre coût, plutôt que s'adapter vraiment avec des vrais moyens. Donc voilà, c'est plus ça, l'avenir des radios satellites, c'est pour l'instant continuer cette politique d'adaptation, je pense, aux révolutions qui arrivent et faire au mieux avec ce qu'elles ont.
Eh bien, merci à nos trois doctorants, Raphaël Dapsol, Idéa Mani et Sébastien Schmitt, de s'être livrés à cet exercice postprandial, d'être venus présenter leur thèse. Je me tourne vers Sébastien Poulain, qui a le micro pour les questions du public.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Est-ce que tu en as, toi ?
Alors moi, oui, mais c'est oui, bien mais bon. Que je pense que dans le... Il y a sûrement des gens qui ont envie de poser des questions.
Quelle merci. Surprise.
Merci, je vais sûrement en avoir plusieurs, évidemment, mais une à la fois. Je vais peut-être adresser la première à M. Schmitt, parce que j'aimerais un petit peu comprendre, en fait, où vous vous situez par rapport, je pense, à un moment précis de Radio France dans les années 50, où je crois que c'est Alain Trutat et Tardieu qui disent on arrête, enfin je le dis à ma manière, on arrête la radio Gutenberg, c'est-à-dire la radio qui consiste à utiliser le processus de production pour la littérature, donc prendre des textes de la littérature et en faire des fictions radiophoniques pour parler de la fiction. Mm-hmm. Et on a cet atelier de création sonore et radiophonique qui se crée et qui dit lui non, justement on va utiliser la radio comme un médium qui a ses propres caractéristiques. Je le dis à ma manière, hein, j'ai pas le texte exact de ces auteurs-là, mais on va essayer de faire de la fiction, de la création sonore, apparaît le terme de création sonore, d'art radiophonique, avec les propres caractéristiques du médium qu'est la radio, donc effectivement le montage, la prise de son, les effets électroacoustiques, etc. etc. Et j'ai pas forcément compris où, en quoi vous vous différenciez dans vos recherches et dans votre pratique aussi par rapport à ça.
C'est une bonne question. J'ai l'impression en tout cas que je rejoins l'idée qu'il y a des écritures radiogéniques, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont plus facilement adaptables que d'autres à la radio. J'entends par exemple Radio France souvent adapter des classiques de la littérature, et je trouve que là il y a un enjeu de transposition qui me paraît être un défi plus important, et dont je ne trouve... Je pense qu'en tout cas, dans le laboratoire, ça fait partie justement des choses que j'aimerais bien mettre en place. C'est-à-dire que j'aimerais bien essayer de développer des scènes types, proposer une scène dialoguée par exemple, enregistrer la même scène avec trois prises différentes, et proposer à différents metteurs et metteuses en ondes de remonter cette même scène dans un timing précis, en leur permettant de pouvoir faire des ellipses, ajouter, insérer des silences, et pour voir aussi comment, finalement, en se détachant du réalisme lié à une prise de son tout à fait naturaliste, on peut recomposer une histoire. On peut recomposer le message principal ou le sentiment qui s'est dégagé d'une scène, et comment l'opération de montage peut transformer éventuellement ou sublimer le sentiment initial qui n'était peut-être pas présent dans la scène. Après, je pense aussi qu'il est intéressant de travailler justement sur des textes de narration type, c'est-à-dire quelque chose de très littéraire, et d'essayer de proposer, à partir d'une bande son préétablie, à un narrateur ou une narratrice d'enregistrer une séquence d'un texte plutôt littéraire, et d'inviter des metteurs en ondes, des réalisateurs et réalisatrices, à travailler à partir de cette séquence sur les univers sonores, leur permettant de sublimer, déformer, amener ce récit ailleurs en termes d'imaginaire, voir comment on peut s'éloigner du propos original ou pas. Donc voilà, c'est vrai que précisément par rapport à la question de ce qui s'est passé à France Culture dans les années 50, j'ai pas vraiment plus de propositions, mais en tout cas l'idée c'est j'aimerais bien que dans le laboratoire il y ait cette possibilité de travailler sur des micro-narrations au sein d'un récit. Donc pas que ce soit au service d'une analyse structurelle du récit, mais plutôt sur l'impact d'une intervention sonore sur la perception et le sentiment que peut provoquer une scène.
Alors, moi, c'est Atassé, j'ai deux petites questions. Peut-être la première pour Amani. Je voudrais savoir, quand on a une radio nationale aussi imbriquée avec la réalité étatique, est-ce qu'au fil des modifications du gouvernement, on a des modifications assez apparentes que vous avez pu relever dans le fonctionnement de la radio d'État du Niger ? Et si oui, comment est-ce que s'expriment ces modifications ? Est-ce que c'est forcément dans le changement des autorités, des instances dirigeantes de la radio ? Est-ce que dans le discours, c'est assez perceptible ? Comment une radio modifie son discours entre deux régimes politiques et qui vont se succéder, en fait ? Alors, ma deuxième question va être juste à Raphaël. Je crois que j'ai bien...
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, Raphaël, en croisant un peu ton travail avec la communication de M. Sénécal ce matin sur les modes de mobilisation, hein, le modèle économique des radios communautaires, je voudrais savoir du côté de la France, j'ai entendu parler beaucoup du fonds de soutien de l'État, mais en dehors de ce modèle, est-ce qu'il n'existe pas d'autres formes de modèles qui viennent équilibrer, hein, soi-disant, ce modèle des radios communautaires? Parce qu'on pourrait imaginer que quand on dépend beaucoup plus du financement public, on pourrait se rapprocher beaucoup plus du modèle de médias publics, hein, en reprenant un peu le schéma que Sénécal présentait un peu ce matin, parce que si on reçoit tout de l'État, on est plus proche, enfin, on pourrait l'imaginer en tout cas. Alors finalement, est-ce qu'il existerait d'autres modèles économiques de survie de ces radios-là?
Alors, donc, je vais répondre à votre question, hein, qui consiste à savoir, en fait, si la radio nationale du Niger ou la radio d'État, hein, s'est adaptée aux fonctions, au discours politique selon les régimes. Alors, le constat que moi j'ai fait, c'est pas la radio en tant que telle, en fait, qui a changé. Donc, au niveau des journalistes, hein, qui sont toujours considérés, c'est des faits en fait, ils sont toujours des fonctionnaires d'État. Donc, il est très difficile pour eux quand même de critiquer un régime, qu'il soit militaire ou civil. Là, la question ne se pose pas. Mais le constat positif, hein, que j'ai fait, c'est au niveau des intervenants. Donc, il y a des associatifs, hein, des membres d'associations qui interviennent dans des émissions, donc qui se permettent souvent de critiquer. Mais en analysant les émissions, souvent je vois des choses, en tout cas quand quelqu'un parle de choses qui ne conviennent pas du tout aux journalistes, qui se sent un peu menacé peut-être, hein. Donc il ne dit rien ou il tourne autour de quelque chose, parce que je l'ai dit, hein, j'ai fait de l'analyse du discours. Donc c'est ce genre d'éléments que moi j'ai essayé tout à fait, hein, de recenser dans leur discours. Et aussi une chose est claire, pendant l'enquête, j'ai rencontré le directeur de la radio nationale pour la station de Maradi, qui m'a clairement dit que, en fait, si un de ces journalistes, hein, réalise un reportage, ce reportage ne va jamais être diffusé avant qu'il passe chez lui. Lui, il va les réécouter, il va les remonter. Donc, s'il y a des choses qui ne lui conviennent pas, il va l'enlever avant la diffusion. Donc, dire que les choses ont changé au niveau étatique avec la radio, je suis un peu quand même réserviste, on va dire. Donc, il y a des choses vraiment toujours qu'il faut, il faut prendre avec beaucoup de précautions.
Alors maintenant, je vais répondre sur la question des autres modèles de financement des radios associatives. Il en existe, mais en fait, le fonds de soutien à l'expression radiophonique a été créé dans les années... En fait, il a été créé en 82. Vraiment, lui-même, l'entité qui existe toujours en 84. Et donc, c'est resté le fonds de soutien le plus important pour les radios associatives, parce que c'est un fonctionnement de fonctionnement, comme son nom l'indique. C'est qu'en fait, toutes les années, il est presque automatique. Il suffit juste de présenter les justificatifs de son statut et qu'on émet pour toucher la subvention. Il y a d'autres subventions avec, mais c'est la principale. Donc, ce qui permet aux radios associatives, on va dire, de se financer en premier lieu. Les autres financements, les radios associatives en France sont limitées à 20% de leur budget de publicité. Donc, elles ne peuvent pas dépasser 20% de leur budget en publicité. Et après, elles se financent par d'autres moyens, par exemple les dons, les organismes externes. Les financements publics peuvent venir, mais souvent, les radios associatives ont toujours du mal à aller vers les financements privés. Certaines radios, après, c'est des modèles très, très spécifiques, fonctionnent sans FSER. Il y en a quelques-unes, ce sont très rares. Ils fonctionnent notamment avec des systèmes de... les personnes qui font la radio, qui payent la radio, donc qui payent des émissions pour passer à l'antenne. Donc, par exemple, de mémoire, il y en a une à Lyon, il me semble que c'est Radio Canu, qui fonctionne comme ça et qui... il me semble que c'est elle... Je ne sais plus exactement en tête, mais qui fonctionne justement sans FSER, parce que pour eux, c'est être libre, ils ne touchent pas d'argent de l'État, donc en fait, ils construisent leur antenne comme ils veulent. Donc avec juste leur propre financement, ils fonctionnent avec leurs propres moyens. Mais c'est un cas vraiment très rare. Les radios se financent souvent par le FSER et ensuite essayent d'aller vers d'autres choses. Les radios communautaires, Pour certaines, ça dépend. Donc si les communautés sont assez regroupées, elles peuvent financer par des voies de dons. D'autres radios, notamment les radios qui sont liées au diocèse en France, sont financées par ces voies ou par des dons, comme par exemple le réseau RCF, donc Radio Chrétienne France, francophone, donc qui sont financées par des dons et par les diocèses, donc qui touchent de l'argent comme ça. Donc ça leur permet de vivre et d'avoir des moyens, notamment de développer leur antenne. Mais la plupart fonctionnent uniquement au FSER ou par des dons. Ou certaines, par exemple à Strasbourg, on a une radio qui est assez exceptionnelle encore, c'est Accent 4, donc qui diffuse de la musique classique et qui a un système d'abonnement. Donc les auditeurs peuvent s'abonner. Donc c'est un système assez étrange qui date d'il y a longtemps. Donc ça rappelle le Minitel ou les années 90 ou les premiers abonnements Internet, mais ça fonctionne encore. Les gens payent un abonnement pour recevoir et pour avoir des avantages. Alors il y a des avantages qui viennent derrière avec, mais voilà, c'est un modèle. Il est rare, mais il existe.
Peut-être puis-je apporter quelques éléments sur la situation en Belgique francophone, dans la mesure où j'ai été, jusqu'à quelques années, président de la structure qui finance les radios associatives, et que ça fait une trentaine d'années que je suis membre de la structure en question. En fait, il y a chez nous deux systèmes. Il y a un système qui finance les radios et un système qui finance les programmes. Donc, ils sont deux choses complémentaires. À l'origine, donc, le fonds d'aide à la création radiophonique, qui existe grâce à une ponction sur les chiffres d'affaires publicitaires des radios, tant privées que publiques, avait comme fonction de financer des programmes particuliers. Et donc, les projets d'émissions ou de programmes de documentaires, d'émissions culturelles, musicales, sont soumises à une commission qui évalue ces programmes et qui en retient un certain nombre en fonction des montants dont elle dispose. Alors, soit à l'origine, les programmes étaient soumis par les radios. Actuellement, les projets sont soumis essentiellement par des producteurs ou des réalisateurs ou des boîtes de production. Et donc, on a vu naître en Belgique une véritable génération d'auteurs, de créateurs, de producteurs grâce au financement public des programmes. Une partie de ces programmes sont d'ailleurs faits par des créateurs, des auteurs français qui trouvent des boîtes aux lettres en Belgique grâce auxquelles ils peuvent se financer pour les productions qu'ils font. La condition étant que les programmes passent sur les radios associatives, mais le rêve de tous les producteurs, c'est d'abord que ça passe aussi sur des radios comme France Culture ou des radios publiques et pas uniquement sur des radios associatives privées. Un deuxième modèle est venu se joindre à celui-là, qui est celui du financement des radios proprement dites, qui émarge également du même fonds. Et en fait, les radios associatives et à vocation d'expression, il y a un intitulé très officiel là-dessus, peuvent demander une reconnaissance auprès du CSA. Et le CSA, sur base d'une série de critères, détermine si les radios peuvent être reconnues comme des radios associatives et ou d'expression. Je passe la formulation complète. Et chacune de ces radios reçoit un financement annuel qui, généralement, est de l'ordre de 15 à 20 000 euros, plus ou moins, et qui lui permet notamment de subvenir à des frais de fonctionnement, à payer les droits d'auteur, des tas de structures de ce type-là. Et le nombre de ces radios soutenues a augmenté avec le temps, alors qu'en fait, la masse monétaire n'a pas augmenté. Et pour reprendre la comparaison avec la France, en Belgique, les radios RCF sont financées comme étant des radios d'expression. Et donc, l'État donne de l'argent pour les radios RCF, tout comme il donne de l'argent à des radios qui sont plus locales et d'expression. Donc, il y a deux modèles qui se complètent, si vous voulez, dans ce cas-là.
Juste un élément sur Radio Canu à Lyon. Radio Canu à Lyon, dans son financement, fait aussi appel au fonds de soutien à l'expression radiophonique. Elle a juste un modèle différent qui peut poser une autre question par rapport au fonctionnement des radios associatives, c'est qu'elle a fait le choix de ne pas avoir de salariat du tout. Et sur les logiques de problèmes justement d'investissement bénévole, on peut se poser la question sur la survie des radios associatives si le non-salariat n'est pas ce qui est le plus motivant pour l'investissement bénévole.
Oui, moi je pense que dans 15 ans, il y aura encore de l'AFM. Hein. Mais ma question, Raphaël, concerne justement le financement. Le FSER fait son job, si on veut, mais la somme n'étant pas énorme et le nombre de radios associatives, lui, très important, 600 en France à peu près, je crois, 800. Vous me corrigerez si je me trompe. Évidemment, la division fait une somme dérisoire pour chaque radio. Or, vous, vous travaillez donc en profondeur sur une cinquantaine de radios dans l'Est. Donc, vous connaissez bien ce milieu. Et ma question est la suivante. Est-ce que la solution n'est pas dans la diminution du nombre de radios associatives? En d'autres mots, moins de radios associatives qui peuvent garder leur esprit de radio associative, mais mieux financées. Parce que le financement reste quand même la clé du problème. Certes, le bénévolat est bien, il a ses joies et ses inconvénients, je comprends dans vos propos. Et peut-être que le financement pourrait assurer la vie d'un nombre de stations moins importantes, mais qui font bien leur boulot. C'est la question.
Et là, le problème, c'est qu'on en revient au village d'Astérix. Tout le monde est content jusqu'au jour où tout le monde n'est plus content. Et par exemple, un des conflits qui est assez dormant, c'est par exemple les liens aux radios RCF. Donc, parce que les radios RCF ont un réseau, ont un certain fonctionnement, ont des financements qu'ils arrivent à générer par eux-mêmes. Pour certaines radios, le réseau RCF pille le fonds de soutien. Pour eux, les radios RCF ne devraient pas toucher le fonds de soutien parce que ça s'apparente à une radio de catégorie C, donc radio nationale à décrochage local. Et donc, en enlevant les catégories des radios RCF, ça donnerait plus de fonds aux autres. Est-ce que c'est une solution? Le problème se pose encore plus avec la DAB, parce qu'on veut augmenter le nombre de fréquences. Donc, des radios associatives devraient se créer. Dans ce cas-là, enfin, oui, peut-être pas. Certaines secrets. Est-ce qu'elles vont survivre? Est-ce que les anciennes vont réussir à tenir? C'est tout le problème. Et le FSER n'a pas vraiment de réponse parce que les fonds ne vont pas augmenter. Ils vont même normalement rester plutôt stables. Mais si le nombre de radios augmente, avec l'inflation, la note va encore plus diminuer pour les radios. Est-ce qu'il faudrait en supprimer? C'est le problème, c'est lesquelles il faut supprimer. Les radios, certaines radios disparaissent avec le temps parce qu'elles n'ont plus de financement ou alors parce qu'elles n'arrivent pas à se renouveler. C'est aussi un problème. Problème de bénévolat. Un problème aussi pour, mais ça c'est dans l'associatif en général, pour tenir un CA. C'est obtenir un bureau. Les radios associatives, comme la plupart des associations, n'arrivent pas à se renouveler, n'arrivent pas à renouveler les bénévoles, n'arrivent pas à renouveler leur personnel. Les salariés, il y a toujours des gens qui arriveront à tenir, mais s'il n'y a personne pour tenir derrière, pas de bureau. Donc, est-ce qu'il faut attendre que les radios associatives meurent d'elles-mêmes d'une mort naturelle, on va dire, ou alors forcer les choses? Ça, après, c'est un tri. Il va falloir faire peut-être... S'il faut trier, ben... Qui fera le tri, justement? Qui devra choisir quelles radios doivent survivre et quelles radios doivent mourir?
Eh bien, sur cette note un peu triste, on va terminer cet échange. Avant de se faire bouter hors de cette table, on va s'en aller tout seul. Merci à tous pour votre attention et merci à nos trois doctorants.
Merci.
Merci.
Oui, bonjour. Alors, c'est la Bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours. Et moi, mon truc, c'est la BD. Donc, tout à l'heure, je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la Bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises.
Non,
je vois bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la Bibliothèque municipale de Tours, sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye.
Cette fois-ci, je voulais vous parler d'une illustratrice, une jeune illustratrice. La dernière fois, je vous avais parlé un petit peu de Julia Wirth, qui était donc une illustratrice américaine. Barbara Baldi, elle est italienne. On vient de la découvrir à la bibliothèque grâce à son second album qui s'appelle Ada, édité par la belle maison d'édition ici même. Et donc, avec Framboise, on s'occupe des bandes dessinées à la Bibliothèque de Tours. Et donc, du coup, on a voulu en savoir plus. Et on a également acheté son premier album, qui est sorti 2 ans avant. Donc, Ada est sorti cette année. La partition Flintam est sortie en 2017. Et donc, c'est son premier album. Alors, comme je disais, Barbara Baldi, elle est italienne. Elle a travaillé pour le cinéma, l'animation notamment. Elle a travaillé aussi pour plusieurs maisons d'édition, dont Pixar, Disney et Marvel. Et moi, ce qui m'a impressionnée dans ses albums, c'est qu'elle travaille à l'aquarelle. Donc, c'est souvent des grandes images. Il y a assez peu de texte. Je vais mettre en parallèle les deux albums parce que finalement, ces deux personnages féminins, donc Ada d'un côté et Clara de l'autre, et c'est des portraits de femmes. des portraits de femmes fortes qui mènent des vies pas faciles et qui arrivent à s'en sortir malgré tout grâce à l'art. Donc pour vous expliquer, la partition Flintham, c'est donc l'histoire de Clara qui, à la mort de sa grand-mère, elle a une sœur, sa grand-mère les a élevées et donc Clara hérite du domaine et sa sœur, elle, a une somme d'argent. Et donc Clara va se battre pour garder ce domaine, l'entretenir. Et malheureusement, suite à divers événements, elle va devoir vendre tous ses meubles et donc travailler comme servante pour parvenir à entretenir encore ce domaine qu'elle va garder jusqu'au bout. Et donc elle a une passion, la musique. Elle exerce sa passion sur un clavecin, un très beau clavecin dans la maison, et elle va, à un moment donné, elle va être obligée aussi de le vendre. Donc il y a toute une histoire autour de ce clavecin et de sa passion pour la musique, mais aussi son travail. Donc face à l'adversité, ce sont des femmes qui ne se laissent pas, qui ne se laissent pas abattre et qui combattent. Donc voilà pour la partition Flintham. Et Ada, c'est aussi un portrait de femme. Ada, c'est une jeune fille qui, elle, ne fait pas de musique, mais elle peint. Elle vit seule avec un père violent. Qui ne la laisse pas, qui ne lui laisse aucun repos. Il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle aide. Sa mère est partie à la ville. Elle s'est visiblement échappée de cette condition et de son mari violent. Et Ada, elle peint à ses heures perdues, mais elle n'en a pas beaucoup. En fait, elle s'échappe plutôt et elle m'a fait penser un peu à Séraphine de Senlis, c'est-à-dire qu'elle est, elle est issue d'un milieu pauvre et en fait, elle va trouver dans la nature des pigments et elle va réussir à faire ses couleurs et à peindre. Et donc, il y a toute une histoire aussi. Elle va rencontrer des peintres, elle va leur donner des dessins. Et ces peintres, dont Egon Schiller, va l'encourager. Et donc, elle aussi, elle va, grâce à l'art, réussir à s'échapper de sa condition. Les histoires sont très belles, mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup marquée dans ces albums, c'est surtout le travail de Barbara Baldi sur la couleur, sur les reflets. Par exemple, à un moment donné, alors c'est difficile d'en parler à la radio, mais je vais essayer d'expliquer. La jeune fille, donc c'est dans Ada, la jeune fille regarde par la fenêtre. Visiblement, c'est un coucher de soleil ou une lumière, on ne sait pas trop, sans doute en hiver. Et donc, il y a par exemple le reflet dans ses cheveux roux, qui est très, enfin, je trouve très réussi. Elle travaille beaucoup sur la nature, donc les champs, la pluie, aussi bien en hiver qu'en été. Et je trouve ça tout simplement magnifique. Alors on devine qu'elle a travaillé évidemment peut-être pour le cinéma. Donc voilà, Françoise, tu as lu Ada, je crois. Est-ce que tu veux en parler?
Je crois que mon micro, ah si, il marche, pardon. Bonjour. Donc oui, j'ai lu Ada et je suis bien d'accord avec toi par rapport à tout ce qui concerne la peinture, les couleurs, les lumières, les reflets. On voit que c'est vraiment une peintre quoi qui a fait ça. Et donc le cinéma, je ne savais pas, tu as dit qu'elle avait travaillé a priori pour le cinéma animé,
oui,
Pixar,
tout à fait,
tout ça,
oui,
donc,
oui.
Et ben oui, voilà, c'est très bien,
c'est surtout très beau, très émouvant. Et donc elle était invitée à Tour de Bulle, donc au mois de septembre dernier. Elle était très sollicitée, il y avait plein de monde autour d'elle, elle faisait des très belles dédicaces à l'aquarelle, et mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu le temps, en fait, de la voir, de parler avec elle, qu'elle m'explique un petit peu sa technique. Voilà, donc deux très beaux albums à retrouver à la bibliothèque de Tours. Donc Ada et la partition Flintham de Barbara Baldi.
Ces ouvrages, ils sont dans quelle collection, en fait? Dans quel rayonnage on peut les retrouver? C'est pour adultes, pour ados?
Alors, pour adultes, on va les retrouver dans les bacs avec les one-shots et les séries bandes dessinées classiques.
Oui, il faudra sans doute les réserver parce que quand on parle des bandes dessinées qu'on a bien aimées, en général, les gens se précipitent. Et puis le numéro 2, il n'est pas encore en circulation. Enfin, le numéro 2 qui est le 1, en fait, le premier album qu'elle
son
a fait premier, il y a deux
oui.
ans. Parce que je vais le réserver avant vous, voilà.
Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marquée, en fait, en regardant. Donc, on voit que c'est un dessin, etc. Et puis, par moment, tout d'un coup, sur une image, on se demande si ce n'est pas de la photo. tellement, par exemple, alors là je peux pas, la radio c'est compliqué, mais par exemple le portrait de cette jeune femme, vraiment on a l'impression que c'est une photo. C'est, enfin moi je trouve ça bluffant la manière dont elle utilise l'aquarelle et le côté réaliste qu'elle peut lui donner. Et en même temps, voilà, beaucoup de paysages très bucoliques, des fleurs, des petits détails sur des arbres, etc. C'est vraiment impressionnant. Enfin, moi, ça m'a vraiment chamboulée.
Donc, je suis entièrement d'accord avec l'avis d'Astrid sur la beauté de cette bande dessinée.